Rencontre avec ce soir Pierre Coville, un personnage atypique que je vous propose de vous faire connaître. Il a été pompier, il a été restaurateur, il a tourné dans des films, il a été cabaretier au sens propre du terme, puisque son cabaret est toujours d'actualité, puisqu'il est toujours vivant. Il a un carnet d'adresses pas possible. Il connaît toute une palanquée de personnalités, telles que Brigitte Bardot, Guerlain, le président fondateur de l'Empire Guerlain, aujourd'hui propriété de LVMH, Louis Vuitton Mouette Hennessy. Brigitte Lahaie, Hervé Palude, le réalisateur de cinéma qui a notamment inscrit un Indien dans la ville, les frères Pétard, etc., etc. Alors cet homme atypique, comme je vous le disais en préambule, est un drôle de personnage. Alors Pierre Coville, bonsoir.
Bonsoir.
Alors qu'avez-vous à répondre à cette présentation ?
Eh ben, c'est très sympathique et très flatteur de votre part. Et merci de m'avoir invité à votre radio. Que j'écoute beaucoup d'ailleurs, parce qu'elle est intéressante.
Bien alors, Pierre Coville, oui. Qu'est-ce qui vous amène à Montfort-l'Amaury ? Un jour, vous débarquez à Montfort-l'Amaury, pourquoi ?
Bah, je ne débarque pas à Montfort-l'Amaury, parce que je suis né à Montfort-l'Amaury, et mon arrière-grand-père est arrivé à Montfort-l'Amaury en 1840, place de l'Église. Il était brocanteur chiffonnier, il s'est installé... où est le coiffeur à l'heure actuelle, sur la place de l'Église. Il a commencé son métier de brocanteur chiffonnier à Montfort. Donc, c'est arrière-grand-père, grand-père, père, moi, mon fils et mes petits-enfants.
D'accord. Bien. Alors, je l'ai dit en préambule, vous connaissez une palanquée de personnalités. Comment en êtes-vous arrivé là ?
Comment j'en suis arrivé là ? Ben, disons que mon père a monté un petit peu en grade, puisqu'il était, il a été brocanteur, mais il était aussi antiquaire, expert et tout ça. Il a connu un tas de gens du showbiz qui venaient chez nous, tels que les Gabins, enfin tous les grands... et de la chanson et les gens qui font des films, et puis leur plaisir c'était de venir le dimanche, parce qu'on avait quand même un très très grand réservoir de marchandises sur 2000 mètres carrés. On avait toujours à peu près, à l'époque c'était beaucoup de rustiques, mais on avait toujours entre 400 et 500 armoires d'avant, donc ça venait de partout. On voyait énormément de monde, dont des souvenirs assez précis. Il y avait des éditions Breton à Méret, et quand Charles traînait et tous les chanteurs, que ça soit Béco et tout ça, venaient faire le dimanche, quand ils venaient à Méret, ils disaient nous allons aller nous balader chez Coville à Montfort. Voilà, mais comme ça il y en avait plein, et c'est comme ça que l'on a connu, et que mes parents connaissaient, et que moi j'ai fait connaissance de ces gens et lié d'amitié avec eux, voilà.
Alors on va en reparler tout au long de cette émission, vous allez nous raconter des anecdotes, mais vous êtes donc tombé dans la marmite donc tout petit ?
Ben, je suis tombé dans la marmite tout petit, à 13 ans et demi, mon père m'a dit, ben, écoute, tu sais pas, j'ai besoin d'ébéniste, parce que pendant la guerre on avait fermé, on travaillait pas. Et donc, je me suis mis tout de suite à l'ébénisterie, et puis je l'ai aidé, j'allais acheter avec lui, j'ai appris mon métier sur le tas avec lui.
C'est-à-dire que vous avez mis la main à la pâte
Très bonheur.
Vous avez vraiment travaillé sur les meubles, vous
Ah
avez...
bah oui, je fais de la restauration, je suis sculpteur, vernis tampon, tout, oui, ça c'est pas un problème. Tapisserie, décoration, parce que aussi...
Et alors, il y a une rupture là. Comment, lorsqu'on est ébéniste, et puis c'est un métier quand même qui doit vous prendre aux tripes,
bien sûr.
Comment on devient pompier ?
Alors, ça, c'est une bonne question. Alors, figurez-vous qu'à Montfort, il y avait un petit corps de sapeurs-pompiers, et il n'y avait qu'un seul chauffeur, puisqu'il n'y avait qu'un seul véhicule. Ils étaient 14 pompiers, ils faisaient 45 sorties. Et un jour, le maire de Montfort, qui s'appelait à l'époque Labadie, qui était notaire, vient me trouver, il me dit « Je suis très embêté, parce que notre chauffeur, malheureusement, vient d'avoir un accident, et j'ai plus de chauffeur. » Est-ce que toi, étant donné que tu as le poids lourd, tu pourrais nous dépanner ? J'ai dit, monsieur le maire, pas de problème, pour une cause comme les pompiers, mais surtout, ne pensez pas que je resterai là-dedans. Alors, ce garçon, chauffeur, et malheureusement avait eu un accident assez grave au pied, et ça a duré des mois et des mois, et je suis resté, et je me suis pris au jeu, et le maire, un petit peu malin, a fait venir le colonel et tout ça, et puis ils ont réussi à m'enrôler, et ce qui fait que je me suis dit, bon, bah, c'est bien d'être pompier, mais il faudrait quand même avoir quelques notions. Et malheureusement, les bénévoles qui étaient là étaient des gens très dévoués, mais n'avaient peut-être pas les connaissances requises pour faire tourner un centre de sapeurs-pompiers. Et je suis allé 18 mois en stage tous les lundis pour passer un examen d'officier à Versailles.
D'accord. Bien.
Et j'y suis resté 35 ans.
Ah, vous êtes resté 35
ans. 35
ans. Ah oui, quand même.
35 ans. Non, 30 ans, pardon, excusez-moi. 30 ans à Montfort. Ouais. J'ai mis en place, étant donné que j'avais quand même une base que je connaissais quand même mon métier de sapeur-pompier, j'ai mis en place les professionnels et les volontaires, ce qui fait que j'avais 50 pompiers et on faisait 2000 sorties. Vous voyez, ça a changé un petit peu du début. Et je me suis passionné, et je dois dire que c'est une école extraordinaire. Les pompiers m'ont porté beaucoup. J'en ai donné, mais j'ai reçu parce que c'est extraordinaire. Et puis s'occuper des autres, donner aux autres, je pense que c'est c'est le meilleur que l'on peut donner, là.
D'accord. Mais donc, vous avez fait ça, vous ne faisiez que ça, c'est-à-dire que vous ne
pouviez
pas...
Non, je ne faisais pas que ça, j'étais volontaire.
Ah, vous étiez volontaire.
C'est-à-dire,
d'accord.
J'ai passé mon examen, c'est ce que le colonel me disait, vous allez avoir des sous-officiers, des adjudants, mais il faut que vous, en tant qu'officier, vous puissiez connaître votre métier, vous pouvoir les commander. Il est évident que quand on veut être le patron, il faut être plus fort que les autres, autrement, c'est pas la peine.
Bien sûr. Bon, cette période est très enrichissante pour vous, vous venez de le dire.
Bien sûr.
Mais vous continuez quand même dans l'Antiquité, jusqu'à devenir à une certaine époque président des antiquaires de France.
Oui.
Et puis, ultérieurement, président des antiquaires européens.
J'étais vice-président des antiquaires européens.
Alors, parlez-nous un petit peu de cette période, parce que c'est quand même une période importante pour vous dans votre vie. Quoi.
Bien sûr, c'est une période importante.
Vous aviez des interlocuteurs importants.
Alors, j'étais pas tellement volontaire. Moi, j'ai jamais été volontaire pour aller dans... Et puis, j'avais à l'époque, dans le bureau national... un nommé Maurice de Lyon, un grand monsieur qui a son empreinte à compter quand même dans le métier sur toute la France, parce qu'il a fait des trucs extraordinaires. Et il m'a dit, il faut absolument que tu rentres et que tu te présentes à la tête du syndicat. J'ai dit, écoute, je vais passer d'abord, je vais faire un test, je vais rester d'abord dans le bureau et on verra après. Bon, et puis ça t'avérait après quand on m'a demandé de prendre la présidence, ce que j'ai fait. Mais j'ai annoncé tout de suite à Gouleur, j'ai dit, écoutez, je veux bien prendre la présidence du syndicat national, mais surtout pour m'occuper de la base. Parce que ceux qui sont antiquaires et tout ça n'ont pas besoin de... ils payent leur cotisation pour être au syndicat national, puisqu'on était quand même 10 000. Mais ils ont leurs avocats, ils ont tout ça, mais la base a toujours besoin de conseils. Et puis ils ont besoin qu'on aille les voir, et puis bon, il y avait des textes de loi, des trucs à faire, et puis bon, ce que j'ai fait, je pense que j'ai bien œuvré, et puis aussi ce qui m'a permis, avec mon ami Habert, qui était au syndicat à l'époque, de mettre en place le grand marché d'antiquités de Turin, qui s'appelle le Grand Ballon. Il y a 800 marchands, et on a quand même participé pour mettre ça en place. Ça aussi, c'est une satisfaction et une fierté pour moi.
Bon, alors, vous avez connu donc ce monde un petit peu fumeux pour le grand public, des experts. On s'en méfie toujours un petit peu dans le grand public de ces gens-là. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet ?
Non, je pense que les experts... Il y a une thèse à passer. Bien sûr, il y a certaines gens que... Je vois ce que vous voulez dire, l'expert qui connaît tout, il connaît pas tout, il y a un expert pour les bijoux, il y a un expert pour le 18e, il y a un expert pour le mobilier régional, il y a un expert... On peut pas être expert en tout, c'est comme un médecin qui pourrait être professeur de ceci ou de cela, et il n'est pas généraliste. Et nous, dans notre métier, les brocanteurs et les antiquaires sont généralistes, mais quand il y a des trucs un peu pointus, on fait venir un expert spécialisé dans son domaine. Ou sur les tableaux, ou sur les bijoux, ou sur les livres, ou sur les chiffons, enfin bon, surtout...
D'accord.
Voilà. Et ça, on a une chambre d'experts au syndicat national, au SNCAO, qui est quand même sympathique et où on a de très très bons experts.
Et quels étaient vos rapports avec les commissaires-priseurs, par exemple? Parce que là aussi, il y a une grosse nébuleuse. On se dit, qu'est-ce que c'est ce métier? C'est, les gens pensent peut-être que... sont pas très en phase avec ces gens-là. Comment vous réagissez à ça?
Non, nous réagissons bien parce que les commissaires-priseurs travaillent énormément aussi avec les antiquaires. D'ailleurs, les antiquaires ont besoin des commissaires-priseurs et les commissaires-priseurs ont besoin aussi pour animer leur salle des marchands. Parce que le particulier qui est dans la salle, des fois, regarde un peu le marchand et dit, tiens, il ne connaît pas toujours la valeur de la marchandise. Et... Non, je crois que c'est complémentaire. Non, les commissaires-priseurs, on en a besoin, on en aura toujours besoin. Et il n'y a pas de... Non, ça marche.
D'accord. Bien. Donc, vous stoppez votre activité d'antiquité.
Oui.
À une certaine époque, il y a combien de temps à peu près?
Eh bien, ça fait une douzaine d'années.
D'accord.
Voilà, je stoppe l'antiquité. Pourquoi? Parce que mon fils m'annonce que il avait pris le virus des pompiers, parce que tout le monde, il était pompier, il avait fait rentrer chez les pompiers. Il me dit, moi, je vais embrasser la carrière de pompier. Bon, j'ai dit, ok, d'accord. Et puis, ma deuxième fille, il dit, moi, je vais être avocate. Ce qu'elle est, d'ailleurs, c'est une moyenne avocate. Voyant que le métier s'arrêtait à moi, j'ai dit mais je vais pas continuer, ça sert à rien. Je me mets au repos. Alors au repos, dans l'intervalle, je rencontre une jeune thaïlandaise qui avec qui je me marie et j'ai un enfant. Et puis, comme elle était excellente cuisinière, j'ai dit, tiens, on va monter un petit restaurant de thaïlandais. Et puis, ma copine Bardot, Brigitte, me dit, un jour, viens, me dit, écoute, je viens casser une croûte chez toi. Bon, et viens, puisque on se connaît depuis plus de 50 ans, quoi. Alors, elle vient, et puis on a cassé une petite croûte ensemble, et puis elle me dit, écoute, j'ai la guitare, on va faire un petit bœuf pour rigoler, oui, dehors. Alors, on a fait un petit bœuf. Et puis, elle me dit, il y avait le pharmacien qui était là. Elle me dit, mais il y a le pharmacien, tu sais que le pharmacien fait de la batterie? Ah bon? Je lui ai dit, écoute, je l'appelle. J'ai appelé le pharmacien, et le pharmacien m'a dit, attends, je vais appeler Yves Laborne, un copain de Montfort qui joue de la guitare et qui d'ailleurs maintenant travaille avec moi puisqu'il est, il fait partie de mon équipe et c'est un excellent compositeur et je travaille beaucoup avec lui. Et voilà comment s'est enclenché que je me suis mis sur le chemin
de Sartre Bank.
Voilà.
C'est ça. Et puis après, ça comme ça.
Oui, c'est ça exactement. Ouais. Et là, je me suis mis à écrire, je me suis mis à composer, voilà. Et voilà. Et puis tous mes copains, j'ai rencontré tous mes copains. C'était facile parce que les Jean-Jacques Debout, les William Scheller, les Daniel Gérard, enfin tous.
Tous sont défilés chez vous.
Tous, ils sont tous venus parce que je les connaissais d'avant déjà.
Et alors, il venait avec un gros cachet ou il venait par sympathie?
Non, par sympathie. Non, il venait faire le bœuf, toujours par sympathie. Non. Il n'a jamais été question d'argent entre mes copains, les grands. Non, d'une part, je n'aurais pas eu les moyens de pouvoir les cachetonner parce que... Vous voyez ce que je veux dire? Non, il venait vraiment par plaisir et puis parce qu'on a des liens d'amitié qui sont quand même assez profonds, on se connaît pas depuis hier quoi.
D'accord. Alors donc à l'époque où vous étiez antiquaire, vous occupiez un quartier très important de Montfort-l'Amaury, une surface très importante.
Oui.
Et vous avez créé la rue Coville.
Oui.
Et dont vous vous dites le maire aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez été élu démocratiquement par vos administrés, je dirais?
Bien sûr.
Comment ça s'est passé, ça? Parce que c'est cocasse, quand même.
C'est très cocasse. Eh bien, écoutez, un jour, on dînait un soir, et j'étais avec... il y avait Brigitte Lahaye, il y avait... Jean-Jacques Debout, enfin on était toute une équipe et il faisait des compliments de ma rue, de ta rue, elle est vraiment extraordinaire. Et je sais plus lequel de deux me dit mais elle devrait porter ton nom. Et Je dis oui. Il me dit, tu sais, ça rappelle un peu Montmartre. Et on me dit, mais attends, il y a un maire à Montmartre, pourquoi tu n'aurais pas un maire, toi? J'ai dit, écoutez, oui, c'est pas une mauvaise idée. Et à ce moment-là, je leur ai dit, mais attendez, le maire de Montmartre, il est réélu tous les 3 ans. Ils m'ont dit, mais toi, tu vas pas t'emmerder à être réélu puisque tu es chez toi. Tu vas être élu à vie. Ce qui fait qu'ils m'ont fait le panneau de l'association de la tribune libre des deux places, puisque je donne place Robert Brault et place Le Breton.
Ouais.
Et c'est Brigitte Lahaye qui a retiré le drap, là. Mmh. Comme quoi j'ai été élu maire à vie,
ouais.
Et on a inauguré ma rue. Et dans le fond, je suis assez fier parce que je suis le seul en France, j'ai pris des renseignements, le seul en France à être maire à vie. Vous vous rendez compte? Voilà.
Alors, belle histoire,
bien sûr, ouais. Que les maires de la région. Ouais. Avec qui je suis très bien d'ailleurs, mais doivent se dire, celui-là il a quand même un peu plus de chance que nous, parce que ouais. Nous on a besoin de se faire réélire pour repasser, mais lui non.
D'accord. Et est-ce qu'il y a eu des petites réactions de la part de la municipalité en place à Montfort-la-Maurie? Non.
Mais non, pourquoi il y aurait des réactions?
Ça s'est passé,
moi je suis chez moi et puis eux ils sont chez eux.
D'accord.
Et je suis chez eux en plus. Non, ben, c'est... Non, mais d'ailleurs, je vais même vous dire une chose qui est très drôle, c'est que, étant donné que je suis maire à vie, j'ai l'intention, et ça y est, je suis en train de le faire, de faire une salle de mariage, car je veux remarier à la Coluche tous ceux qui ont envie de se marier à Montfort-la-Maurie, c'est-à-dire qu'ils viendront, j'ai une salle où j'aurai 28 personnes, on pourra rentrer qu'à 28. Je suis en train de mettre en place où on pourra faire le tour de Montfort en carrosse, voyez,
mmh.
Et on pourra dîner ou chez ma femme, ou dans les restaurants de Montfort, ou à d'entour, peu importe. Mais celui qui aura envie de rire, de s'amuser, de faire un mariage drôle, ou de se remarier avec sa femme, ou s'il a une petite copine, il dit, bon, bah, écoute, ils repartiront avec un joli diplôme, avec un gros tampon, où ils auront ma tranche dessus, qui a été... Parce que j'ai été croqué par Aslan, celui qui avait la page de lui pendant 20 ans,
ouais.
Qui est, à mon avis, un des meilleurs dessinateurs du XXe siècle, je le dis, et en plus qui fait des bronzes, qui a fait la Marianne de Bardot.
Mm-hmm.
Et voilà, ils repartiront avec un diplôme, et puis ça sera marrant, quoi.
D'accord.
Parce que moi, j'ai envie de rire, vous comprenez,
on l'a compris, hein.
Toute ma vie, j'ai ri, et je veux mourir en rigolant, quoi. Hein.
D'accord. Bien, Pierre, je vous propose une petite pause musicale.
Bien sûr. Hein,
et puis peut-être publicitaire aussi, parce qu'il faut bien qu'on gagne notre vie, nous aussi.
Ah, ben bien sûr.
Et puis, nous reprenons cette rencontre avec cette émission tout de suite après. D'accord ?
Merci, oui.
Bien, vous êtes toujours à l'écoute de RVE, et comme vous avez raison, nous reprenons donc cette émission avec rencontre avec Pierre Coville. Et vous avez vu en première partie qu'on a appris pas mal de choses, et c'est un personnage truculent, et nous allons continuer sur le même ton. Alors, Pierre Coville, toujours
oui.
D'attaque ?
Toujours d'attaque.
D'accord. Alors, quand on a vécu une vie comme celle que vous avez vécue, qu'est-ce qu'on peut attendre de plus, Pierre Coville ?
Rien. Rien, je pense que non. Et je dirais que si j'avais à refaire ma vie, je la referais exactement pareil.
Ouais.
Si j'avais la chance de pouvoir la refaire pareil, je la referais pareil. Je pense que c'est assez enrichissant de rencontrer des gens de qualité. Et puis aussi, mes pompiers qui m'ont marqué, parce que ça aussi, ça a été un passage extraordinaire dans ma vie. Bon, les artistes, les gens connus et reconnus, mais les pompiers, c'est pour moi, c'est une deuxième famille, vous voyez.
Vous avez besoin de reconnaissance, Pierre Coville ?
Non.
Non ?
Non. Non. J'aime bien quand je rencontre des gens qui me sont sympathiques et qui viennent me... Non, de reconnaissance, je m'en fous.
Ouais.
Bon. Aujourd'hui, on est là, ne m'en y est plus. Hein.
D'accord. Bien, c'est une philosophie.
Bon.
Hein. Alors, ce que nos auditeurs, je crois, attendent de vous, c'est que vous nous racontiez quelques anecdotes piquantes.
Piquantes,
un petit peu, des gens que vous avez rencontrés. Comment,
ouais.
Qu'est-ce qui vous a marqué, par exemple, dans cette époque où vous avez rencontré beaucoup de gens connus? Qu'est-ce qui vous a marqué? Quelles sont les personnes d'abord qui vous ont marqué? Les personnages?
Je vais commencer par ma petite enfance alors.
Comme vous voulez, allez-y, vous êtes libre.
Je dois leur dire mon âge à la radio, là, mon âge.
Ah ben ça c'est votre problème, Pierre Covid.
74 ans.
D'accord.
Alors 74 ans, en 1935, j'ai une photo avec Maurice Ravel, parce que Ravel habitait Montfort. Mmh. Et Ravel venait souvent chez mes parents. Et il venait acheter des bibelots, des meubles et tout ça, parce que là-haut, le Belvédère, il a acheté beaucoup de choses chez nous. Ça, c'est déjà une anecdote. Mmh. En 1942, une autre anecdote qui est quand même assez sympathique et croustillante, c'est que Colette, l'écrivain, habitait à Méré. Mmh.
Donc, Méré, tout proche
à côté, ouais. Voilà. Et alors, elle venait souvent aussi chez mes parents, et... Pendant la guerre, elle allait faire ses courses au Ménul, petite ferme au Ménul à la Mière. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, mais enfin bon, peu importe. Et souvent, elle me prenait en passant. Et moi, je disais à mon père, mais ça m'énerve d'aller avec cette dame-là. Elle est toujours en train de me raconter des trucs et des machins. Je pense qu'elle devait me raconter des poèmes et tout ça. Et ça devait m'emmerder, quoi. Alors, je disais à mon père, j'aime pas beaucoup, mais enfin, bon. Et alors, donc, on allait à la Mière. Elle allait chercher un petit peu de pommes de terre. Vous savez, un kilo de pommes de terre. Mmh. Un petit peu de... voilà.
Un petit peu de fromage.
Un petit peu de fromage. Et je la rencontrais des fois chez Germaine Beaumont, qui est écrivain comme elle et qui habitait Montfort. Et comme ils étaient amis... Bah, voilà.
Qui a été prix médicinal.
Prix féminin, Germaine Beaumont. Ouais.
Prix féminin. C'était à quelle époque ça? On peut le
prix féminin, ça a été dans les années 50, je crois.
D'accord.
Je pourrais pas vous dire. Hein, là, non.
D'accord. Quelle est la petite chose qui pourrait faire rire nos auditeurs, par exemple, que vous avez vécu au contact d'un artiste, d'un écrivain, d'une personnalité, par exemple, qui s'est passé chez vous?
Il y en a tellement des choses que je ne sais pas, là. Il pourrait les faire rire. Ah bah si, un jour, il y a William Scheller qui vient et me dit, dis donc, j'ai Salut les copains, j'ai un article sur Salut les copains, je voudrais le faire chez toi. Bon, j'ai dit, écoute, pas de problème, William. Puisque William habitait Montfort, il a même été à l'école à Montfort-la-Maurie. Et... après, il me dit, dis donc, comme t'es pompier, je voudrais bien monter à la caserne et puis prendre ta tenue et la poser avec les pompiers dans Salut les copains. Puis bon, on a rigolé parce qu'il y avait... il est sérieux, mais il est assez drôle aussi quand on connaît bien William. Voilà, ça c'est bon.
Ouais,
j'en ai tellement, vous savez, que ça soit...
Oui, on s'en doute. Hein.
Avec Coluche, avec...
Bien, par exemple, expliquez-nous votre première rencontre avec Brigitte Bardot.
Oh, Brigitte Bardot, elle était très très jeune, elle venait avec son papa et sa maman, parce que ses parents habitaient du côté de Louisiane et ils venaient acheter des meubles chez moi, et c'était la promenade. Et Brigitte, elle venait avec ses parents et elle venait avec sa sœur Mijanou. Voilà comment j'ai connu Brigitte. Voilà.
D'accord.
Et d'ailleurs, depuis, on est toujours restés très, très amis. La preuve qu'on est restés amis, parce qu'elle est quand même venue chez moi jouer. Vous l'avez vu sur les magazines, vous l'avez vu sur Paris Match, vous l'avez vu à la télé, à la radio et tout ça. Il fallait vraiment qu'on ait une amitié sincère entre nous. Et ce que j'adore chez Bardot, c'est bien sûr les animaux. Mais ce que les gens ne savent pas, ça c'est le côté de Bardot. Animaux, c'est-à-dire tout de suite, on s'occupe. Une petite anecdote en passant. Je me souviens qu'un hiver, elle me téléphone, elle était à Bazoches et elle me dit, je suis malade à crever, tu vas chez Henri, c'est le pharmacien, tu lui dis que j'ai besoin de ci et de ça. Bon, je lui amène donc ses médicaments rapidement. Dans l'intervalle, elle avait eu un coup de téléphone du nord de la France, d'un chenil, je ne m'en rappelle plus. Eh ben, elle a avalé ses trucs à toute vitesse, elle est repartie en voiture avec, je ne me rappelle plus avec qui à l'époque, et elle est repartie tout de suite au secours de ça. Ça, c'est extraordinaire. Et la deuxième phase de Bardot que l'on ne connaît pas, c'est que j'ai vu Brigitte, moi, à Bazoches, recueillir des gens qui avaient le cancer et qui étaient en fin de vie. et s'en occuper avec l'amour que vous pouvez même pas imaginer, les nourrir, les loger, tout ça. Ça, c'est la face Bardot qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est ce qui me touche le plus chez Brigitte.
D'accord.
Elle est blindée. Vous voyez, quand une artiste comme ça, vous savez, elle est tellement sollicitée. Mais elle est très, très sensible.
D'accord. Comment atterrit-elle à Bazoches? Elle est tombée amoureuse de cette région quand elle était avec
ses parents?
Je pense
que, venant à Montfort, elle a été amoureuse de cette région. Et puis, elle a ses Bazoches, je ne me souviens plus en quelle année. Et puis, elle l'a toujours, d'ailleurs, comme elle a sa maison à Saint-Tropez.
Et d'ailleurs, les deux s'appellent la Madrague.
La Madrague, oui.
Aussi bien à Saint-Tropez qu'à Bazoches.
Ah non, à Bazoches, c'est pas la Madrague.
Ah, il y a marqué la Madrague.
Non. Ah bon, vous confondez avec une autre maison qui a pris le nom de la Madrague. Ça doit être des gens en goguette qui ont acheté ce petit truc-là, qui se sont dit, on va mettre la Madrague, ça fera bien.
D'accord.
Non. Bardot, elle s'emmerde pas de mettre la Madrague sur son truc.
D'accord.
Elle veut pas quoi. D'ailleurs, vous avez vu les palissades, parce que... Ouais. Autrement, ça ferait comme à Saint-Tropez, il y aurait des cars et des tout ça pour...
D'accord.
Non.
Ok. Ben, j'avais vu en passant à Bazoches la Madrague et je m'étais dit, j'avais fait le rapprochement.
C'est pas la vraie Madrague, ça.
D'accord. La vraie Madrague, elle est à Saint-Tropez.
Elle est à Saint-Tropez, il n'y en a qu'une.
D'accord. Bien. De votre longue expérience d'antiquaire, vous devriez être riche comme Crésus. On l'a dit tout à l'heure.
Oui, mais c'est pas mon truc. Moi, je ne suis pas un homme d'argent. Je ne suis pas passionné, je ne travaille pas pour l'argent. Bien sûr, comme tous les autres, il faut quand même
vivre.
Mais ce n'est pas ma passion, ça. J'aurais pu faire autre chose pour gagner de l'argent. Ça ne m'intéresse pas. Je n'aurais pas été pompier, je n'aurais pas été m'occuper des autres et des dents.
D'accord.
Vous savez, l'argent, on en a besoin. Ouais. Mais il faut savoir une chose, que l'argent ne fait pas le bonheur. Et puis vous trouvez que ce n'est pas enrichissant de connaître un tas de gens. Et vous avez vu beaucoup d'artistes, vous, qui sont riches. Non. Quand ils sont riches, ils se le font prendre, de toute manière, parce qu'ils le gèrent mal. Et il faut mieux pas en avoir, comme ça on n'a pas besoin de s'embêter à le gérer.
Bien sûr. Vous faites donc allusion à... Chantal Goya,
ces gens-là qui ont été très riches et qui, du jour au lendemain, obligés de ramer très très dur. Et j'adore Jean-Jacques et j'adore Chantal, qui sont pour moi comme des frères et sœurs, pareil.
Ils continuent à venir chez vous ?
Bien sûr, oui, ils viennent tous chez moi. Oui.
Alors, j'ai une question qui me brûle les lèvres, oui. Pierre Coville. Vous avez une expérience, une telle expérience du milieu artistique. Pourquoi n'avez-vous jamais essayé de faire carrière dans ce milieu-là ?
C'est pas la première fois qu'on me pose la question, parce que avant vous, d'autres artistes m'avaient dit tu devrais, parce que bon, j'adore le spectacle et j'adore les planches, j'adore chanter, raconter des blagues et tout ça. Non. Parce que j'avais ma passion qui était l'antiquité, ce métier qui était un métier que l'on avait perpétué de père en fils, et ça c'était pour moi, et c'était simplement pour m'amuser. Mais j'ai embrassé cette carrière à partir du moment que j'ai arrêté l'antiquité. J'arrêtais, j'ai dit là je ne veux plus entendre parler de tout ça, toute ma vie c'était... On se levait, on allait en vacances, c'était toujours pour parler, c'était toujours pour rencontrer des antiquaires, des brocanteurs et tout ça, et toujours parler de métier. Stop ! Et maintenant, je ne veux plus entendre parler de ce métier. Si on m'appelle pour un conseil, bien sûr, je le fais. Mais maintenant, mon vrai métier, c'est le spectacle. Quand je peux aller à droite, à gauche, si on me demande, je suis allé deux fois là, à Bruxelles parce que... Il y avait un spectacle de cabaret, j'y vais volontiers parce que ça m'amuse et parce que je pense que maintenant mon métier d'artiste de cabaret, je me débrouille pas trop mal quand même. Si on me demande, c'est que je me débrouille pas trop mal.
On peut dire que vous avez viré votre cutie du jour au lendemain.
Complètement.
Hein?
Complètement. Dans le métier, hein, parce que autrement.
Bien sûr. Bien. À votre époque, le Club Med n'existait peut-être pas.
Non.
Mais auriez-vous quand même aimait être un gentil organisateur, c'est-à-dire un animateur, quoi. Puisque vous l'êtes devenu, incontestablement.
Ah oui, oui, je fais, oui.
Est-ce que vous auriez pu vous voir dans ce rôle ? C'est cocasse comme question, hein, je le reconnais.
Oui, oui. Je sais pas.
Il y en a d'autres qui l'ont fait, hein.
Oui, il y en a d'autres. Il y a Lagaffe,
il y a tous ces gens-là qui sont passés par là et qui ont réussi quand même. Hein.
Peut-être, oui. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Oui. D'abord. Vous vous considérez comme amuseur ?
Ah oui, 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 bien sûr.
Aujourd'hui, vous vous considérez encore comme amuseur public,
oui,
quoi.
Oui, oui, il n'y a pas de problème.
D'accord.
Et en plus, j'adore écrire. J'écris des sketchs, j'écris des chansons. Mmh. Et ça m'amuse beaucoup. Et je les chante ou je les fais chanter par les autres. Mais non, ça me plaît beaucoup. Ça, je dois dire que quand j'ai un micro dans les mains, que je suis sur une scène, ça me plaît.
Très bien. Comment analysez-vous l'évolution du showbiz aujourd'hui ? Quelle est votre position, par exemple, par rapport à la Star Academy ? Lui trouvez-vous un intérêt ?
Écoutez, je vais être franc. Non. Je ne dis pas que l'on ne peut pas trouver des gens de qualité, mais former quelqu'un en quelques mois qui va être lancé dans la nature et qui va aller sur des scènes, je pense que ça doit être très dur, et ça, c'est d'aller au casse-pipe. Par contre, à la Star Academy, quand ils prennent des gens qui viennent de province et qui ont déjà fait des petites scènes à droite, à gauche, et qui viennent perfectionner leur métier, ça, d'accord. Mais ceux qui arrivent tout frais, tout... Non. Vous savez, il faut au moins une dizaine d'années avant de monter sur les planches et être sûr de soi. Mmh. C'est parce que vous savez, si vous avez une bonne salle, bravo. Mais si vous n'avez pas une bonne salle, bah vous allez au casse-pipe, parce que c'est ça le métier. Mmh. Comme dans tous les métiers, il faut sentir son public. Il faut aller le chercher, vous voyez. Et d'ailleurs, les chanteurs qui se sentent à l'aise, c'est ceux qui ont fait les cabarets avant. Mmh. Parce que le public de cabaret vous forme, justement.
C'est une école, oui.
C'est une école. Mm. Ouais. Tous, regardez, tous, ils ont tous fait du cabaret. Mm. Tous.
Tous les grands.
Tous les grands ont fait du cabaret.
Mm. Bien, est-ce que vous êtes plus variété que jazz, par exemple ?
J'aime tout.
Comment peut-on aimer tout ?
J'aime le jazz, j'aime le rock, j'aime le... D'ailleurs, il y a Daniel Gérard qui passe avec sa country music. Mmh. Je trouve que c'est sympa, tout est bien à partir du moment que c'est professionnel. À partir du moment que c'est...
Qu'est-ce que vous appelez à partir du moment où c'est professionnel
De la bonne musique. D'accord. Par des bons musiciens, interprétée par des bons musiciens.
À partir du moment où c'est...
Par des bons chanteurs, voilà.
Voilà.
Autrement, tout ce qui est amateur, je ne dis pas qu'il ne faut pas débuter quand même, mais... Ouais. Si je vais passer, étant donné que c'est pas dans mes cordes, si je vais passer une soirée jazz ou une soirée rock ou country, je vais avoir des bons.
Ouais.
Et là, je dois dire que j'aime.
D'accord. Et votre position par rapport au rap, par exemple ?
Alors, je connais pas là.
C'est un
oui,
c'est
non, mais,
avec
non, mais je pense
avec le problème des banlieues, hein.
Oui.
Et puis vous me direz également, puisque on est là, on discute à bâton rompu, qu'est-ce que vous pensez de ce problème des banlieues, etc. Par rapport au rap aussi, puisque il y a provoque quand même quelque part, non ?
Oui, il y a de la provocation. Je ne sais pas. Vous savez, je crois qu'en banlieue. Les jeunes, ils ne sont pas plus mauvais que dans d'autres endroits. Peut-être qu'il faudrait leur donner la possibilité de pouvoir faire du sport d'abord. Mmh. Leur donner beaucoup plus de possibilités de faire du sport. Et peut-être même du sport de combat. Parce que moi-même, qui ai fait des arts martiaux, la première chose que l'on fait quand on commence à bien marcher, c'est de respecter l'autre. Et je pense que ces jeunes... Au lieu de se défouler et d'aller faire des conneries à droite et à gauche, s'ils étaient sur des tatamis ou s'ils étaient dans une salle de muscule ou à faire de la boxe et tout ça, je crois que c'est très important. Même faire du foot, du cross ou n'importe quoi. Des encadrements. Et puis...
Ça canalise les énergies, c'est ça ?
À mon avis, ça, oui, ça, bien sûr, ça c'est sûr. Les gens qui ont fait du sport à haut niveau et qui font du sport, même... Et puis, bon, bah, oui, c'est vrai, ils s'expriment dans des trucs que moi, je comprends pas. À mon âge, je comprends pas leur musique.
Et pourtant, quel succès, quoi.
Et ils ont du succès, oui.
Et quand on entend des groupes comme IAM, comme James,
Complètement, je suis d'accord avec vous.
On est sidéré de voir que on est sidéré de voir le nombre d'albums vendus, quoi.
Mais oui, non, mais parce qu'ils ont. Vous savez, je vais vous dire. Je crois que quand on a 20 ans, on a sa manière de vivre, on a sa manière. Moi, mon père me disait, mon grand-père me disait, « Ah là là, mon petit gars, quand j'avais 20 ans, ah, dis donc, t'auras jamais connu ça. » Puis mon père me l'a dit, puis moi, je l'ai dit à mon fils. Et puis après, j'ai dit à mon fils, « Non, je crois que je dis des conneries, parce que quand on a 20 ans, tout vous fait rire, tout vous amuse, et on est attiré par tout. Et puis quand on en a 75 ou 70, on voit plus du tout pareil. »
Bien sûr.
Bon, moi j'ai la chance d'être dans ma tête d'être encore un peu jeuneau. Peut-être à cause de mon âge qu'on devient en enfance, c'est pour ça que ça amuse un petit peu, non. Mais j'ai foi à la jeunesse, je pense que la jeunesse, elle n'est pas perdue. Il faut savoir lui redonner la possibilité de pouvoir se blinder.
Par exemple, vous recevriez un groupe de jeunes dans votre cabaret, parce que votre cabaret est quand même plus axé vers les trentenaires, quarantenaires, hein, plutôt que vers les très jeunes. On est bien d'accord.
Ouais.
Votre clientèle est plutôt vers ces zones d'âge.
Attendez, je vais vous dire une chose, c'est qu'en général, oui, par exemple, quand Daniel, la country music par exemple, je loue mon truc pour la country music, c'est les gens de 40 ans. Si on fait des soirées privées pour des... C'est sûr, c'est des... Les gens qui viennent à l'heure actuelle au cabaret voir des humoristes, la cliente commence à 30 ans. De 30 à 60.
Et plus.
Et plus.
D'accord.
Et après, bon, ils ne comprennent pas tellement. C'est normal, c'est ce que je vous disais. À 20 ans, on voit d'une manière, et après... Et on évolue, parce que ces mômes-là, là, qui font du rap, là, quand ils auront 40-50 ans, ils écouteront toujours le rap. Pour eux, ça sera leur musique. Moi, je vais vous dire une chose, quand j'étais môme, c'était le musette. On allait au Badajo, on allait... Voilà, c'était le musette. Eh bien, écoutez, si j'écoute du musette, ça me plaît beaucoup.
Vous continuez à trembler.
Eh oui,
d'accord.
C'est normal, mais je pense que ces mômes-là, ils écouteront du rock quand ils auront 50 balais.
Bien sûr.
Parce qu'ils auront été bercés là-dedans.
Très bien. Pierre Coville, je vous propose encore une pause musicale.
Pas de problème.
Et puis on reprend tout de suite après.
Merci.
D'accord ?
Merci.
Eh bien, vous êtes toujours à l'écoute de RVE, RVE 103.7. Je pense que vous vous régalez à l'écoute de cette émission, parce que nous avons un interlocuteur qui a pas mal d'arguments à nous donner, pas mal d'informations intéressantes. Alors, vous me parliez tout à l'heure, Pierre Coville, des arts martiaux, et j'étais un petit peu surpris de savoir que vous avez été le fondateur des arts martiaux sur la commune de Montfort-l'Amaury.
Ah ben oui, je suis avec mon ami Gérard Trane, fondateur du club d'arts martiaux de Montfort-l'Amaury. Alors moi, ma discipline, c'était judo et jiu-jitsu.
Ouais.
Et lui, kendo. Et je me souviens avoir dit à Gérard, quand on a pris ça en main, toi, tu dois t'investir parce que tu es plus jeune, mais le plaisir que tu me ferais, c'est dans une des disciplines, d'avoir un champion de France. Alors, je l'appelle Coco, Trane, il s'appelle Coco. Et il a fait mieux que ça. C'est que son fils a été champion d'Europe. On a été champion d'Europe en équipe. Et on a fait cinquième au championnat du monde. On a été plusieurs fois champion de France, en kendo toujours. Et grâce à mon coco, je dis bravo. Et ça aussi, c'est quand même une petite fierté. C'est dommage que dans mes disciplines, jiu-jitsu et judo, on n'a pas on n'a pas sorti de grand champion. Mais bon, le principal, c'est que dans notre dojo, on a quand même un champion d'Europe et de très très bons éléments. Et les trois quarts de l'équipe de France.
Alors, la transition est toute trouvée. On parle de l'Europe.
Oui.
Et j'aimerais qu'on revienne sur Jean Monnet, puisque c'est un des personnages qui vous a beaucoup marqué.
Ah ben bien sûr.
Alors, parlez-nous un petit peu de Jean Monnet, qui est quand même le père de l'Europe. Ne l'oublions pas.
Eh ben, Jean Monnet habite Bazoches. Et il a une fille qui s'appelle Myriam, qui est toujours du monde et qui est, je crois qu'elle doit avoir un an de plus que moi. Et j'ai rencontré souvent Jean Monnet, j'ai même eu la chance d'aller boire l'apéritif de temps en temps chez lui. Un grand monsieur d'une très grande simplicité, et puis comme les grands. Les grands sont simples et les grands ne vous écrasent pas. Et on n'a pas peur de côtoyer un grand parce que lui sait comment il faut faire.
D'accord.
Et Jean Monnet, c'est quand même quelque chose de sublime, quoi.
Et alors, c'est paradoxal parce qu'on a l'impression, quand on écoute Jean Monnet, quand on lit Jean Monnet, que c'est un homme très austère. Vous confirmez ou pas ?
Réservé, c'est un monsieur
réservé.
Très réservé.
Ouais.
Pour moi, c'est un monsieur réservé, mais un grand monsieur personnage.
Et il vous a souvent parlé de l'Europe ou pas du tout ? Vous n'avez jamais abordé
bien sûr,
ces
bien
problèmes ?
Bien sûr, on en parlait, il posait des questions. Mais il n'y a pas qu'à moi qui posait des questions. Il en posait dans le village, au maire. Quand il me posait une question, il devait la poser exactement au cultivateur. Il la posait à tout le monde pour savoir exactement ce que la base pensait.
C'était un homme de conviction.
Bien sûr.
Complètement.
Un grand monsieur.
D'accord. Bien, dans votre panel également, il y a un personnage qui est un sacré personnage. C'est Monsieur Garlin.
Ah, mon Jean-Paul.
Jean-Paul Garlin, qui a été quand même le... Bon, qui est aujourd'hui dans ce qu'on appelle la Cosmetic Valley,
puisque
la Cosmetic Valley a été créée de toutes pièces il y a peu de temps.
Ouais.
Et lui, il est installé tout près de...
Au Ménul.
Non, à Rambouillet. Son,
ah oui, 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 oui. Hein, oui.
Il est installé à Rambouillet, donc il est en plein cœur de la Cosmetic Valley. Bon, il est un petit peu agité. Actuellement, il y a des petits soubresauts qui concernent... Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, Pierre.
Non.
Mais c'est vrai que... Bon. Et puis en plus, physiquement, il souffre un petit peu actuellement.
Bah, c'est-à-dire qu'il est pris par les hanches. Il est comme ma Brigitte.
Ouais.
Il est comme Bardot, tous les deux, ils ont les hanches qui sont un petit peu fatiguées et ils souffrent. Mais c'est quand même un personnage, c'est un nez extraordinaire. Son grand-père doit être fier, puisque c'est son grand-père qui l'a découvert en tant que nez.
Ouais.
Il était très jeune.
Alors disons qu'un nez, nez en parfumerie, c'est celui qui décèle.
C'est celui qui découvre et qui... Voilà.
D'accord.
Et
Jean-Paul... Les irônes, tous les...
Voilà. Et Jean-Paul Gardin est un monsieur extraordinaire de gentillesse. Et ce qui est drôle, c'est que mon arrière-grand-père achetait les pots de lapin chez les Garlin. Mon grand-père, mon père a fait du commerce avec son père. Et moi, bien sûr, je suis très, je dirais pas copain, je suis plus que copain. On se voit trois fois la semaine, on mange ensemble et tout ça.
J'ai même entendu dire que vous le massiez quelquefois.
Oui, ça m'est arrivé, oui. Oui, parce que je suis aussi un peu magnétiseur. Mais il ne faut pas en parler parce que, bon...
Pourquoi ?
Mais parce que j'aurais trop de clients après. Et comme je fais toujours bénévolement, quand les gens sont... Oui, j'ai ce don.
Vous imposez les mains ?
Ben, j'ai des spécialités. J'ai quelques spécialités que j'avais, mais que je ne vais pas en parler à la radio parce que, bon... Bon. Mais ouais.
Je respecte votre.
J'ai un champ magnétique un petit peu hors du commun, oui.
Ouais. Bien, alors, il est de coutume dans cette émission, pour bien cerner la personnalité, parce qu'on arrive un petit peu à la fin de l'émission, ça va très vite. Alors, il est de coutume, pour bien cerner la personnalité de mon invité, de lui poser des questions.
Oui.
Très rapide, allez. Avec des réponses très courtes.
Voilà.
Hein?
Okay.
Alors, première question, cuisine traditionnelle ou cuisine exotique ?
Eh bien, ma femme, c'est cuisine thaïlandaise, alors... c'est ce que vous voulez, c'est la question que vous me posez ou...
Ouais,
voilà.
Vous répondez comme
Est-ce que j'aime comme cuisine ?
Oui.
J'aime toutes les cuisines, moi.
D'accord.
À partir du moment qu'elles sont bonnes.
D'accord.
Et qu'elles sont faites par des vrais professionnels. Et surtout, fraîche, pas dans les petits paquets que l'on coupe. Tiens, encore une anecdote, là.
Vas-y.
Vous savez que Jean-Paul Garlin, est un excellent cuisinier.
Ah bon ?
Ah, quand il m'appelle, il me dit, « Coville, viens, je vais te faire une surprise. » Eh bien, vous pouvez... C'est un très, très grand cuisinier.
Et il fait dans la sauce.
Oh là 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 là. Attendez, je vous dirai pas tout ce qu'il fait, mais c'est un excellent cuisinier.
Oh ben s'il a un grand nez.
Ah oui oui oui. Ah hein? Oh, ça c'est un cuisinier vraiment extraordinaire.
Parfait. Alors, toutes ces questions sont idiotes, hein, bien évidemment. Anarchie ou ordre républicain ?
Ordre républicain.
D'accord. Showbiz ou vérité vraie artistique ?
Vérité vraie artistique.
Bien. Porno ou érotisme ?
Érotisme.
Bien.
Et je dis érotisme, et je pense à ma Brigitte Lahaye, qui est une grande amie à moi. Ce qu'elle fait, c'est érotique. Je trouve pas que c'est pornographique, moi. Même si elle a fait des films porno.
C'est votre réponse. Expérience ou jeunisme ?
Expérience, quand même.
Bon. Pascal Sevran ou Star Academy ?
Ah, j'aime bien Pascal Sevran. J'adore parce que c'est un ami, déjà, d'une part. Et Pascal Sevran, ce qu'il fait, moi, je trouve que c'est génial de redonner la possibilité aux gens qui ont chanté, qui ont des voix extraordinaires, de les remettre en selle, et ce qui leur permet aussi de faire des petites tournées en province. Moi, je dis bravo. Bravo. Moi, je l'aime beaucoup.
Très bien.
J'aime beaucoup Pascal.
Alors, maintenant, une question qui vous concerne directement. Antiquité ou brocante vide-grenier ?
Je vous dirai plus rien, ni l'un ni l'autre. Parce que... Non, je veux même plus y penser à ça.
Mais vous, en tant
parce
que...
Parce que ça... Non, parce que vous devez bien comprendre que ça... Ce métier, ça a été une passion. Ouais. Je l'ai laissé, je l'ai abandonné, c'est pas de gaieté de cœur. Je l'ai abandonné parce que j'ai pas de successeur. C'est un métier qui est très dur. Vous savez qu'à Rambouillet, vous êtes à Rambouillet, il y avait un vieux marchand aussi, d'une vieille famille d'antiquaires, qui s'appelle Kémar. Et Kémar est un garçon de Rambouillet. Et lui aussi, il a tout laissé tomber, il ne veut plus en entendre parler, rien du tout. Je crois qu'on a trop été pris dans ce métier.
Vous savez pourquoi je vous pose cette question ? Parce que vous avez été président du syndicat des antiquaires. Ouais. Et aujourd'hui, il y a une grosse polémique avec les vides-greniers qui font de la concurrence aux brocanteurs professionnels, aux antiquaires.
Attendez, je vais vous dire une chose.
Je vous pose la question.
Je sais là de quoi je parle, parce que quand j'étais président, j'ai quand même aussi fait la guerre à ça. Les vides-greniers, on pourrait avoir des vides-greniers, c'est pas un problème dans son village. Mais ce qui se greffe à tout ça, c'est que les vides-greniers, il n'y a que des gens qui ne font que ça, des foires de particuliers, mais qui vont d'un département à l'autre. Ce qui donne la possibilité à des gens de reventiler sur les marchés, sur les foires, de la marchandise de provenance douteuse. Et dont, si les gendarmes leur demandent d'où ça vient, ils diront toujours c'est le grenier de ma grand-mère. Mmh. Mais le grenier de la grand-mère, il dure pendant 10 ans, et à un coup ils sont dans Lyon, à un coup ils sont dans le Jura. Moi, je suis pour les vides-greniers, à condition qu'ils restent dans la commune ou dans le machin, et que ça soit, voilà. Parce que je ne vois pas pourquoi on va demander aux antiquaires leur livre de police en disant « La tasse, là, vous l'avez eu où ? Vous l'avez acheté où ?» ça. Et qu'un particulier qui peut se promener avec des beaux galets, ils sont pas tous comme ça, mais disons que ça donne la possibilité à des gens malhonnêtes de ventiler cette marchandise sur des foires de particuliers. Alors que les gens qui font vraiment les foires de particuliers, les Durand et les Dubon font ça pour s'amuser et pour, voilà, c'est tout, passer le temps. Mais il y a des professionnels, des gens qui, eux, pillent, vont chercher de la marchandise, que des bibelots dans des propriétés ou dans des... Et reventilent ça, voilà, c'est pour ça. Voilà.
Bien. Eh ben, je suis content parce que cette question était légitime, puisqu'elle vous a fait redevenir un syndicaliste de première bourre.
J'ai été le premier d'ailleurs à dénoncer ça. J'étais le premier à dénoncer ça parce que on s'apercevait que souvent les bibelots, on prenait des bibelots à droite et à gauche, et cette marchandise était des fois rachetée sur par des professionnels. Et ils se retrouvaient, malgré qu'ils mettaient sur leur livre de police, avec de la marchandise de volée, douteuse, dans leur magasin. Donc, c'est sûr que...
Bien, alors, Pierre Coville, avant de conclure cette émission, qui a été ô combien enrichissante pour nous tous, j'ai pour habitude, et c'est une... pardon. C'est un moment que nos auditeurs attendent avec impatience. Alors, je vais vous dire pourquoi, parce que c'est la question à la con. Pourquoi la question
J'adore les questions à la con.
Alors, pourquoi la question à la con? Parce qu'on a toujours tendance à dire à l'intervieweur, pourquoi tu as posé cette question à la con? Eh bien, ouais. Moi, je la revendique, cette question à la con.
Et vous avez raison.
Et je vais vous la poser.
Oui, vas-y.
Alors, pourquoi avoir créé un cabaret à la campagne, donc Montfort-l'Amaury, plutôt qu'à Paris, où se trouve l'essentiel des artistes? N'est-ce pas, encore une fois, un travers de votre personnalité?
Bah, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, avoir un cabaret à la campagne, c'est pas bien.
Ah, moi, ça me dérange pas du tout.
Vous savez qu'après la guerre, tout de suite après la guerre, il y avait le restaurant le plus à la mode de Paris. C'était Maurice Carrère qui avait l'auberge de la Moutière. Et le tout Paris venait. Mais le monde entier, le chat d'Iran, la reine d'Angleterre, tout était à Montfort-l'Amaury. L'intérêt, si Maurice Carrère a monté son auberge à Montfort-l'Amaury, c'est que le lieu s'y prêtait, et parce que on est quand même dans une jolie ville. Quand vous pensez quand même que Ravel y a vécu, que Victor Hugo y a vécu, les grands, tous ceux qui ont eu la possibilité de venir, et quand on est à Montfort, bah, on ne peut pas faire autrement. C'est pour cette raison que, et là je le dis, je m'amuse toujours avec le sourire, en disant il y avait le boléro de Ravel, et maintenant, il y a le tango de Montfort-l'Amaury, parce que j'ai voulu faire un tango, je vous le disais tout à l'heure, pour le Musette. J'ai fait le tango de Montfort-l'Amaury, que je pense on entendra sur les ondes bientôt.
Eh bien, de toute façon, on les entendra ici, sur nos ondes, et certainement même pour illustrer cette émission.
Eh bien, je vous remercie beaucoup.
Pierre Coville, merci beaucoup.
Et puis, bravo pour ce que vous faites, et bravo pour pour RVE 103.7. qui est vraiment une radio que l'on écoute avec plaisir, parce que elle est enrichissante, elle est drôle, elle est sympathique, on s'emmerde pas à l'écouter.
C'est gentil.
Merci beaucoup.
La semaine prochaine, je recevrai Jean Lacouture. Jean Lacouture, vous savez qui c'est? C'est le grand écrivain, le biographe de François Mitterrand et de Charles de Gaulle. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Bonsoir.